un podcast proposé par The Vox.
Il y a des lieux qui semblent choisir leurs habitants plutôt que l'inverse. Villaz-Pourson en est un. Un village du Morvan, modeste en apparence, qui vit passer un jour un certain Gaston Chessac, sculpteur de matière, peintre de l'instinct pur, qui est venu poser ses valises pendant 11 années. Et voilà qu'aujourd'hui, dans les mêmes rues et sous le même ciel changeant, une autre artiste travaille la matière avec justement cette même quête tranquille. Il s'agit de Cécile Maldera, ancienne artisane de l'image documentaire. Elle a longtemps servi le regard des autres avant de laisser émerger le sien. Un regard peuplé de bêtes, de visages archaïques. Il y a aussi des yeux multiples, singuliers, qui nous observent autant que nous les observons. Sa peinture ne raconte pas, elle ne décide pas, elle laisse venir et elle expose aujourd'hui à l'office de tourisme de Moulins-en-Gilbert cette œuvre patiente, cette œuvre aussi, j'ai envie de dire, chatoyante qui s'expose au grand jour. Et c'est donc sur ce chemin, le chemin de cette matière, que nous avons décidé de nous installer quelques instants, de passer un moment en compagnie de Cécile Maldera. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. On est vraiment là au cœur de cette expo qui vient d'être ouverte au public il y a peu. Cécile, alors racontez-nous un petit peu déjà peut-être comment vous êtes arrivée à Villaz-Pourson. Hein, je le disais dans l'introduction, un peu sur les traces de Gaston Chessac.
Moi, j'ai pas suivi ses traces. J'ai même découvert en fait qu'il avait vécu à Villaz-Pourson après m'y être installée. Il a tout juste commencé d'ailleurs sa carrière et ses essais de peinture ici. Et moi, j'ai fait mes débuts aussi ici. J'y suis arrivée par hasard. C'est mon compagnon et moi, on cherchait à quitter Lyon. On cherchait une maison assez grande. Et c'est ici qu'on a posé nos valises. Voilà. Et j'ai découvert le Morvan à cette occasion, parce que c'est vraiment un espace en France que je ne connaissais pas. Et j'ai la joie aujourd'hui de vivre dans une maison avec la vue sur la forêt et j'en profite. Et je crois que ça fait partie maintenant aussi de ce que je peins, cet espace de vie là particulier.
Voilà, ça vous habite véritablement. Alors vous dites que vous avez commencé à peindre sans aucune formation, hein, bien loin des écoles. Qu'est-ce que justement cette absence d'apprentissage académique vous a permis de tracer un peu comme sillon et de manière originale?
Ma voix. Je pense vraiment que c'est une liberté, en fait. Et je pense que c'est ma voix. Et j'ai déjà exprimé le fait que j'ai eu de la chance, quand je me suis mis à peindre, assez rapidement, de trouver ma signature, de faire ces propositions-là qui ont l'air assez brutes, bien que j'ai une sensibilité pour l'art brut, mais je ne peux pas dire que je suis un artiste d'art brut. Je connais l'histoire de l'art, je ne suis pas enfermée quelque part. Donc, mais en tout cas, du moins, l'art singulier. Voilà. Et je crois que c'est cette liberté-là qu'on a quand on est autodidacte. On essaye tout. Tout et n'importe quoi, et on a peur de rien. J'ai pas peur de, une fois que j'ai posé de la peinture à l'huile, de continuer à travailler dessus, même voilà, des choses qui sont pas du tout académiques. Et c'est ça qui m'a permis, je crois, en fait, d'arriver à m'exprimer et à proposer cette peinture-là qui est vraiment, je pense, particulière.
Voilà, et je reprends le mot, c'est effectivement très très singulière. Alors on pourrait croire justement, lorsque on regarde vos toiles autour de nous, un geste spontané, presque instantané, et pourtant chaque pièce demande des semaines, parfois des mois. Vous me l'avez confié quand on s'est rencontré au moment du vernissage. Il y a des pièces que vous laissez un peu infuser, reposer, et vous allez les reprendre, et il va y avoir à nouveau un jaillissement de la matière et de ce que vous voulez justement apporter en plus.
Oui, tant que je regarde, je continue à voir. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai dit, que vous retrouverez dans le livre d'or, je l'ai mis en exergue. Oui, c'est ça, mon travail c'est de regarder, c'est de préparer des fonds, des tâches, des espaces, et puis et après de commencer à faire parler le papier, et les reliefs que j'ai créés, Et je regarde, mais vraiment, je regarde des heures, je prends en photo, donc je les ai toujours avec moi. Et quand je suis plus sur une peinture que sur une autre, c'est du matin au soir, absolument tout le temps. Et puis je fais des petites manipulations sur mon téléphone. Et puis je me dis, là, je me relève si je suis dans mon lit. Et puis je vais poser mes petits yeux et je vais commencer à créer une créature qui vient. Et c'est vraiment comme de la maïeutique, c'est un fil que je commence à tirer comme ça. Et puis les personnages apparaissent, mais effectivement, je ne veux pas dire qu'ils apparaissent dans la douleur, mais ils apparaissent avec dans un laps de temps qui est très long. Et on peut avoir l'impression qu'il y a des choses assez naïves ou assez simples quand on regarde ma peinture, enfantine même, mais c'est pas du tout juste quelque chose de qui va jaillir, qui est un chaos comme ça. Du genre, je mets de la musique très fort et puis je pose plein de choses comme ça sur la feuille. C'est au contraire, effectivement, du temps, du silence. Quand je peins, je suis absolument creuse. Je ne pense absolument à rien. Je n'ai pas du tout d'intention. Et il y a quelque chose qui se passe entre le papier, mon regard, le regard de ce que je suis en train de peindre, la plume, puisque je travaille toujours avec de la plume et de l'encre. Ça, toutes mes œuvres commencent comme ça et toutes mes œuvres terminent et se forgent avec ça. Et j'ai plus la question en tête. Je crois que je suis partie dans
le... Non, mais c'est normal. C'est bien. C'est le plaisir de la conversation, ça. C'est de parfois, justement, d'être dans la digression, mais c'est ça aussi, parce que c'est la matière, un peu comme votre matière, c'est vivant.
Absolument, c'est vivant, voilà. Et je pense que moi, je travaille avec le vivant, réellement, et je suis heureuse quand les gens qui rentrent dans mes tableaux, qui regardent mes tableaux, me font cette réflexion. C'est souvent les commentaires que j'ai sur les réseaux ou les gens que je croise et qui me disent « mais c'est vivant, c'est pas possible, il y a quelque chose qui nous regarde dans tes toiles, c'est vivant ». Et ça me touche véritablement, parce que je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est moi, mes tâches après le cœur de mon travail, c'est de travailler avec le système de l'appareil Dolly. Donc
voilà, il faut bien l'expliquer. Hein. Voilà, ça peut paraître justement, ouais. c'est un mot un peu savant qui dit pas qu'on emploie pas souvent. Ouais.
Sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière. En fait, c'est une capacité psychologique qu'on a et que notre cerveau, par exemple, a de reconnaître des formes ou des objets connus dans le grand classique, par exemple, c'est les nuages dans le ciel. Et ça peut être aussi en musique, mais c'est plus rare, mais c'est vraiment, en tout cas visuellement, un muret en pierre, des nuages dans le ciel, et puis tout d'un coup, on voit qui est un chien, qui est un chat, enfin, et tout ça. Et moi, mon travail, c'est ça, le cœur de mon travail, en fait, c'est de travailler sur des fonds, et après, en fait, de commencer à voir apparaître ce que j'appelle les créatures, parce que c'est des animaux qui existent, qui n'existent pas, c'est des humains, des bouts d'humains, qui ne ressemblent pas toujours tout à fait. Et c'est effectivement le cœur de mon travail, cette pareidolie. Est-ce que je l'ai suffisamment expliqué ?
Moi, je pense que oui. Moi, j'ai effectivement, comme vous le disiez, voilà, des tâches. Ça peut être des tâches d'encre aussi, voilà, qu'on va pouvoir interpréter. Vous parlez de nuages, donc comment ?
Des tests de recharge, voilà, c'est ça.
Alors, justement, de cette matière travaillée surgissent des figures. Alors, vous ne décidez pas à l'avance, bien sûr, mais vous le suivez. Comment est-ce qu'on reconnaît au milieu d'un chaos qu'on essaie de voir apparaître des choses, que finalement la forme petit à petit est en train de naître?
Comment je le reconnais? C'est même pas quelque chose que je vais mentaliser. C'est vraiment...
Il n'y a pas de conscience de ça.
Non. C'est vraiment, quand je dis que je suis creuse, quand je travaille, c'est que je suis vraiment creuse, en fait. Et de la même façon que je ne sais pas du tout quelle couleur je vais utiliser quand j'arrive sur le papier vierge, ou pourquoi j'utilise celle-ci plutôt que celle-là après, j'arrive tellement l'esprit vide et prête à tout accueillir que elles viennent. Et après, cela dit, elles peuvent disparaître, parce que si ça ne me satisfait pas, mon travail, c'est aussi de recouvrir, de gratter. Il y a ici au moins deux tableaux qui ont été entièrement recouverts après avoir été terminés, et pour lesquels c'est une deuxième proposition qui me sied maintenant, mais qui ne parlait pas suffisamment la fois précédente.
Oui, mais c'est vrai que ce phénomène de la pareidolie qui pousse un peu notre cerveau, notre imaginaire, j'ai envie de dire aussi, à avoir des formes familières un peu dans ce qui a été créé par le hasard. Ça permet justement de décortiquer un petit peu, d'aller peut-être un petit peu plus en profondeur sur ce qui vous inspire, quelles sont peut-être... Il y a des rencontres, je sais qu'on en parlait lors du vernissage, il y a des rencontres comme celle avec Fred Deux, Cécile Reims, qui ont été des étapes marquantes. Peut-être expliquez-nous un peu dans votre cheminement comment ça s'est passé.
Fred Deux et Cécile Reims, j'ai eu la grande chance de les rencontrer, mais il y a très longtemps, à l'époque où je ne peignais pas et où je n'avais aucune idée que j'allais peindre un jour. Mais ça fait partie de ces rencontres qui enrichissent une vie et puis qui réapparaissent au moment opportun, quand on a quelque chose finalement à exprimer. Et je les ai rencontrés parce qu'on souhaitait faire un film documentaire sur Fred II. Et ils avaient eu la gentillesse de nous accueillir chez eux pendant 48 heures avec le producteur et le réalisateur pressenti. Le projet s'est pas fait, mais j'ai eu en face de moi un être d'une extrême gentillesse et extrêmement ouvert, et qui m'a accueilli, moi qui étais une toute jeune femme à l'époque, en fait, absolument comme son, j'allais dire son équivalent, non, c'est pas le bon mot, mais et on a parlé littérature, et je sais que c'est peut-être plus dans la littérature qu'il m'a aidée, en fait, parce que voilà, depuis je lis André Ardelet et deux trois autres personnes qu'il m'avait conseillé, et c'est quelque chose que je porte en moi depuis toujours, parce que bon, j'aime le travail de Fred II, et à ceux qui le connaissent pas vraiment, je conseille d'aller le voir. C'est un dessinateur magnifique qui travaillait aussi beaucoup sur des fonds, et après lui il travaillait très précisément au dessin, a créé aussi des univers un tout petit peu plus inquiétants que les miens. Et le travail de Cécile Reims, qui est moins connue, parce que elle travaillait beaucoup pour d'autres, en fait, parce qu'elle gravait, notamment Hans Bellmer. Mais quand elle a développé aussi sur le tard, en fait, ses gravures, elle a offert un travail magnifique. Donc voilà, ça fait partie des rencontres qu'on a, pas souvent dans une vie, mais qu'on va garder dans son cœur, et puis qui c'est quelque chose qui est comme si c'est quelque chose qui continue à m'enrichir, en fait. Alors qu'ils sont disparus tous les deux.
Ça continue à vous nourrir.
Oui, oui, oui. C'est vraiment quelque chose. Quand j'y pense, il y a une espèce de sourire, en fait, qui apparaît en moi. Cette espèce de chaleur humaine, vraiment, que j'ai rencontrée et qui m'a permis aussi de regarder leur travail. Ils ont aussi beaucoup écrit. Moi, je suis très sensible à la littérature et aux mots. Et du coup, tout ce qu'ils ont eu à offrir, moi, je l'ai ressenti d'une manière différente si je ne les avais pas rencontrés. Et donc, je porte ça encore aujourd'hui.
Alors, en regardant justement vos toiles, j'ai vu que, en fait, vous ne signez pas, il y a juste vos initiales. Alors, qu'est-ce qu'il explique ? Est-ce que c'est une forme d'humilité ? Est-ce que peut-être vous voulez voir une satisfaction narcissique de l'artiste disparaître ? Racontez-nous pourquoi ce choix ?
Je vais pas dire ça parce que du coup ça va faire l'effet inverse. Donc, mais oui, peut-être qu'il y a eu au début effectivement cette espèce d'effacement, et encore vraiment sur là on les voit, mes initiales CM, mais faut les chercher. Mais il y a encore un an ou deux, il fallait vraiment les chercher. Hein. Elles étaient vraiment cachées dans les entrelacs des couleurs. En fait, je me suis aperçue de quelque chose, c'est que mes initiales ce sont CM. Et CM, un jour j'ai fini par l'entendre, SEM. Et c'est ce que je fais dans ma peinture, en fait. Je sème quelque chose, quoi. Dans ce que je dis, que maintenant, moi, j'ai beaucoup, beaucoup profité de la culture. Et j'ai beaucoup emmagasiné. Et maintenant, je rends d'une certaine façon. Et j'offre au monde. J'espère que c'est pas très, c'est si prétentieux que ça. Mais en fait, vraiment, ça, je donne maintenant et je sème quelque chose. Et donc, je trouvais que c'était assez beau, en fait, de lire ces CM SEM. Et puis, au passage, je m'aime un peu quand je travaille. J'aime bien le travail que je fais.
Non, mais il faut s'aimer un peu soi-même pour aimer les autres. C'est important d'être bien avec soi-même.
En tout cas, quand je dis je m'aime, je veux dire que je suis effectivement aujourd'hui vraiment en accord avec ma peinture. Et donc, je vais dire, j'aime l'artiste peintre que je suis. J'aime le travail que je fais. Je suis heureuse de pouvoir continuer à le faire. Et dans ce CM-là, il y a aussi quelque chose de ça que j'assume. Donc, ça paraît tout petit, mais en fait, ceux qui me connaissent savent que je suis toute petite de taille, et j'ai cette petite blague que j'ai faite un jour quand j'ai commencé à donner à voir mon travail et que je suis devenue, on va dire, peintre professionnelle. Et j'ai dit, je suis toute petite, mais quand je peins, je suis immense. Ça ne veut pas dire que je suis extraordinaire comme artiste, mais ça veut vraiment dire, je suis immense au sens où quand je vous disais que j'étais creuse, je suis prête à beaucoup, beaucoup accueillir pour avoir à donner.
Oui, et puis ça vous galvanise et c'est un bel élan en fait hein, qui est le vôtre. Alors, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants justement sur une dimension importante aussi dans votre travail, Cécile, c'est l'attachement à l'esprit japonais du kintsugi. Hein, c'est une pratique qui répare en soulignant la fracture plutôt qu'en la dissimulant quoi. Il y a eu une petite erreur, il y a eu un petit accident de parcours. Alors, qu'est-ce que justement cette philosophie de l'accident et de l'imperfection vous apporte et comment vous vous en emparez?
Bon, en fait, je travaille toujours avec ça parce que même si j'ai pas d'intention, il y a quand même un moment où quand je prends une feuille de papier sur une autre, que je fais un tampon et que je vois il y a quelque chose qui se passe, je me dis ça c'est bien, donc je vais essayer de le répéter à cet endroit-là et autre, et puis ça marche pas en fait. Je dis c'est pas grave, ça marche pas, je vais travailler avec ce qui est là. Donc il y a déjà aussi travaillé avec ce qui est là. Souvent j'ai pas les outils qu'il faut. Par exemple, j'ai pas racheté de plume et ma plume elle est pas assez fine et je veux à ce moment-là je dis voilà je vais faire ces yeux comme ça et je voudrais un trait fin et puis ça marche pas et il me sort quelque chose de beaucoup plus épais. Je dis c'est pas grave, je vais faire avec. Je suis très souvent en train de faire avec quelque chose qui fonctionne pas. Et des fois, je joue aussi carrément parce que moi-même, je peux des fois donner des coups de scotch sur le papier et arracher pour exprès, en fait, créer une fêlure, quelque chose qui va pas, et puis travailler avec. Et d'une autre façon aussi générale, le côté, vous évoquiez l'écologie tout à l'heure, mais il y a aussi, par exemple, que je ne jette rien. C'est-à-dire que je peux ne pas être satisfaite du tout d'un de mes tableaux. Je peux le recouvrir, mais des fois, je peux le découper. Et quand je dis que je jette rien, c'est qu'il y a des tableaux après, je rassemble les feuilles, et je recrée à partir de là. Vraiment, il n'y a aucun bout de papier que je jette. Chez moi, par exemple, je vais peut-être en faire quelque chose, mais je fais beaucoup de, par exemple, de, comment ça s'appelle? Pour marquer des marque-pages. Voilà, je me retrouve avec des petits bouts de papier comme ça, et j'ai plein de petits bouts de papier, et avec plein de petites créations dessus. Parce que, effectivement, ça, c'est l'aspect écologique, et ça, c'est l'aspect, ça n'a pas fonctionné, j'ai découpé, j'ai raté, mais je continue de travailler dessus.
Alors tout à l'heure, justement, au début de notre conversation, j'évoquais votre lieu de résidence hein, à Villapourçon. Je parlais de Gaston Chessac aussi qui a habité avant vous. Vous avez réalisé un film à son sujet. Est-ce que vous sentez, je reviens un peu sur le sujet, une filiation? Est-ce que vous menez une conversation silencieuse avec quelque part Gaston Chessac qui lui a travaillé l'arbre brut et qu'il en a fait pour lui une évidence? Est-ce que quelque part il y a un écho entre lui et vous?
C'est la même famille. C'est la même famille. On évoquait aussi tout à l'heure le fait que j'étais autodidacte. Et je crois qu'on est vraiment dans cette famille-là. D'une façon générale, on l'a appelé art brut. Maintenant, voilà, on peut définir de façon plus précise l'art brut et de dire que moi, j'en fais pas partie parce que, sans avoir fait des écoles, je connais quand même l'histoire de l'art. Mais c'est vraiment une famille de qui s'offre une grande liberté dans la création et dans notre créativité. Vraiment.
L'exposition est visible ici à l'office de tourisme donc de Moulins-en-Gilbert. Dites-nous un peu, il y a toutes les œuvres autour de nous, il y a de la couleur, il y a ces êtres, il y a ces, ce que vous y avez vu, il y a plein de niveaux de lecture, hein, il y a énormément de tableaux, je pense à celui de l'œil notamment, avec une chouette ou une espèce de grand-duc qui est dans un coin du tableau. Dites-nous un peu ce que vous donnez à voir ici.
Je donne à voir ce qui, je pense, qui est une partie de ma vision du monde. Et j'espère que je laisse aussi la place à ceux qui regardent mon travail pour qu'avec leur imaginaire à eux, ils puissent aussi entrer dans ces tableaux-là, mais de façon différente. Par exemple, voilà, je vous ai entendu parler d'un de mes tableaux et dire oui, alors une chouette ou un grand-duc, ou c'est ça. Et puis peut-être que vous êtes arrêté sur celui-là d'animal. Et puis moi, sur ce tableau-là, j'aurais envie de parler d'un autre groupe de créatures, par exemple, plus. Et Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous évoquiez aussi les couleurs dans cette...
Oui, j'évoquais les couleurs, oui, avec une évolution justement par rapport aux couleurs.
Et notamment le tableau dont vous parlez, qui est fait sur une grande masse jaune, en fait. Oui, alors la couleur, c'est pas que je ne la travaillais pas avant, mais c'est qu'effectivement, je travaillais sur des bases qui étaient assez sombres et assez denses, et il y avait peu d'espace. Et quand je posais une couleur dessus, évidemment... on la voyait peu. Et ça demandait un certain effort. Il fallait vraiment rentrer dans le tableau, s'approcher. Et là, maintenant, je travaille la couleur vive, vraiment. Je me rendais pas compte à ce point avant que les gens me le fassent remarquer et que je les vois aussi comme ça dans cette pièce. Je travaille la couleur et je travaille la respiration aussi, plus dans les espaces. Et j'espère que par là aussi, ça aide les gens à rentrer davantage dans mes tableaux. Et je pense, et j'espère en résonance avec eux. Surtout, moi, c'est ça, en fait. C'est que peut-être que j'ai dit que j'ai pas d'intention, mais peut-être qu'au bout d'un moment, je raconte quand même une histoire avec ces petits personnages-là. Des choses qui me sont propres. Hein. Mais ça serait réducteur si c'était que la mienne. Et j'espère que mon travail, il vous permet d'avoir une conversation différente avec ces tableaux-là.
Et de se projeter, parce que chacun projette son histoire.
De toute façon, c'est ce qu'on fait systématiquement, mais plus particulièrement, j'espère, avec tous mes personnages. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais c'est roman tes histoires, et c'est roman tes tableaux, et on te raconte tous nos histoires. J'ai dit, vas-y, raconte-moi la tienne. Et elle peut être différente d'un jour à l'autre. Moi, par exemple, qui vis avec mes tableaux, quand je les garde comme ça longtemps à côté de moi, Je vois toujours des choses différentes, même dans celles qui sont peintes. On voit pas la même chose de près, on voit pas la même chose de loin. Certaines œuvres me parlent de certaines choses un jour et elles me racontent autre chose le lendemain. Et j'espère qu'elles ont cette richesse-là qui reste, qui fait qu'il y a des gens qui ont envie, par exemple, de les acquérir et de les avoir chez eux, en fait, et d'avoir cette histoire-là avec ces peintures-là.
Voilà, de dialoguer, continuer à dialoguer. Cécile, qu'est-ce que vous attendez de, justement, vous l'avez en partie dit, mais du regard du public ici du Morvan, qui a peut-être pas forcément l'habitude de l'art singulier, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il emporte avec lui en quittant la salle, peut-être comme impression
Moi, je suis heureuse, par exemple, de me dire que les gens qui viennent, parce que là on est dans un office du tourisme, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont entrer dans ces deux pièces de la galerie, ils sont pas venus pour ça, et puis il y a une proposition en fait artistique, j'ai envie de leur dire, j'espère que ça leur fait pas peur, parce que des fois le mot proposition artistique peut faire peur, ou la peinture, l'art, ou si on n'est pas venu pour ça, on se dit bah non, mais vraiment, c'est s'il y avait cette curiosité de venir voir ces pièces et de se donner un petit peu de temps pour les regarder et juste voir si ça peut les toucher et d'y passer un peu de temps ou plus. Et c'est vraiment une curiosité et je pense qu'elle est pour tout le monde, j'allais dire, et même pour les enfants. J'ai vu des enfants réagir à mes tableaux dans un esprit un peu où est Charlie, mais en tout cas qui passe du temps dessus aussi et se faire interpeller comme ça et se faire arrêter à un moment donné par quelque chose qu'on n'est pas venu voir et s'offrir ce temps-là. Voilà.
Il y a une dimension, Cécile, que nous n'avons pas encore évoquée. Il faut qu'on le fasse, puisque cette exposition s'intitule « Ceux qui nous regardent », ce sont les titres de vos œuvres. Voilà, j'en cite quelques-uns. « Le chaos se fait âme »,« Maintenant, je me souviens que je suis de ce monde », il y a « Perdre l'illusion de pouvoir se rendormir ». Alors, est-ce que ça, c'est un message par rapport aux insomniaques ? Donc, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de choses dans vos titres.
Oui, j'allais dire, pour moi, ça fait partie vraiment du tableau. Je mets beaucoup de poésie, j'allais dire, dans mes tableaux, je pense. Que les gens le ressentent et c'est important pour moi que le titre soit sur la même longueur d'onde, qu'il ne soit pas en train d'expliquer si je peins un éléphant que c'est un éléphant orange, hein, voilà. Et alors les titres, ils sont glanés, par mes lectures, voilà. Je lis quelque chose, par exemple, et je vais voler un petit bout d'une phrase à un écrivain. Je vais un tout petit peu la transformer. Ou il y a des choses que j'ai pu écrire moi-même ou que j'ai pu entendre. Et alors, très honnêtement, parfois, je ne sais même pas d'où ils me viennent, ces titres-là. Mais je pense que c'est un peu comme la peinture. Je ne sais pas forcément toujours d'où ça me vient. Et je suis contente que vous les souligniez. Je sais que tout le monde ne les apprécie pas autant, mais moi, j'y tiens beaucoup.
Voilà. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, voilà, c'est important de l'évoquer. Voilà, se termine cette conversation à bâton rompu, hein, ce regard croisé avec Cécile Maldera, artiste peintre, on le rappelle, installée à Villapourçon, dans ce Morvan, qui a déjà vu passer Gaston Chessac et qui continue d'attirer à lui ceux qui savent regarder autrement. Alors, son exposition intitulée « Ceux qui nous regardent », donc Cécile Maldera, peinture, est à découvrir donc à l'Office du tourisme Rive du Morvan, donc ici, 11 Place Lafayette à Moulins-en-Gilbert, et ce sera jusqu'au 30 septembre prochain. Donc, vous avez tout le temps nécessaire pour ne pas rater cette belle exposition. Et puis, vous pouvez suivre l'actualité, la retrouver sur cecilemaldera.com. Et puis, il y a aussi, bien sûr, sa page Facebook ainsi que Instagram. Une œuvre patiente à laquelle il faut vraiment donner le temps, en écho, en dialoguant aussi, et puis en acceptant de se perdre un petit peu.
Absolument. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, Manuel.
Rejoignez The Vox sur thevox.fr, sur l'application mobile et sur les réseaux sociaux. The Vox. La radio.